L'invité du jour.
Vous êtes bien sur Radio Orient. Notre invité, Najah Al-Boukaï, un graveur, dessinateur syrien. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Bienvenue ici à Radio Orient. Vous avez survécu aux prisons du régime Assad. Vous avez été emprisonné pendant un an en tout. Et vous avez publié vos dessins de prison dans Tous témoins aux éditions Actes Sud. Vous racontez l'horreur que vous avez vécue à travers votre art. Et vous exposez en ce moment vos œuvres à la galerie Europia, c'est avenue de Ségur, à Paris, jusqu'au mois prochain. Tout d'abord, pourquoi il était important pour vous d'exprimer, de dessiner et d'exprimer votre douleur, ce que vous avez vécu à travers ces dessins?
Merci. Le fait que je suis dessinateur et j'ai fait une école de beaux-arts, j'ai fait des cours depuis que j'étais au lycée. Et puis j'ai continué mes études en France dans les années 90. Juste le fait d'incarcérer un dessinateur qui dessine et qui aime beaucoup le figuratif, d'un point à l'autre. Et je veux dire, si peut-être j'étais un dessinateur ou un peintre qui fait des tableaux abstraits ou qui travaille sur le symbolisme ou qui fait les installations, il aurait s'exprimé autrement. Mais par hasard, le régime, il a incarcéré un dessinateur qui est fidèle au dessin, que la carte de mémoire dans son cerveau, il est assez développé. Donc, il fallait absolument que je décharge toutes les images que j'ai vues, qui ont été malheureusement à la fois amusantes ou très riches. C'est pas amusant, je veux dire, c'est méchant de dire ça, mais le fait d'être dans un lieu avec une centaine de personnes, comme on dirait c'était un apocalypse où on voit des gens qui sont dans un état de faiblesse, moitié nu, avec des gens qui sont malades, et à côté, il y a des gens qui se font torturer, et des cadavres dans un coin. Tout ça, c'était trop riche, malheureusement, pour mes yeux. Le fait que j'ai vécu ça, tout simplement, il fallait que je continue à dessiner. Mais qu'est-ce que je vais dessiner à ma sortie? C'était mes témoins. Mes souvenirs de ce centre d'incarcération, cet environnement à la fois très douloureux, sombre, mais très riche visuellement.
Et c'est un témoignage aussi, ça c'est très important.
Au début, c'était pas le but, c'était pas de témoigner. Mais ça, c'est le dilemme que les dictateurs et les tyrans tombent. Les gens qui ont envie de s'exprimer, ils vont exprimer la douleur que eux ils ont causée pour ces gens. Donc, absolument, le témoignage, il va sortir. Même si c'est un devoir que l'art doit charger de le faire, parce que le tyran, il a un devoir. Autre chose, c'est imposer l'amnésie sur nos cerveaux. Et l'art, il joue le rôle à l'inverse. Il garde cette mémoire.
Vous avez été arrêté par les services de renseignement syriens 3 fois. Quelles étaient les raisons invoquées?
Le fait de participer aux manifestations lors du printemps arabe. Donc il y avait d'autres troublements d'ordre public, affaiblissement des sentiments nationaux. Mais la dernière, c'était apologie du terrorisme. Parce que le régime, il a considéré tous les opposants en tant que des terroristes. Donc le fait juste de critiquer, j'avais passé un dessin sur ma page Facebook pour quelques heures, un dessin qui dénonce le comportement de l'armée syrienne vis-à-vis du peuple syrien, et ça m'a coûté d'être quelqu'un qui fait l'apologie du terrorisme. C'est très à la mode maintenant, apologie.
Comment ça s'est passé, cette première arrestation?
Il y a des frappes, des tabasses. Le temps d'arriver dans un centre d'incarcération, ça dure des heures, mais on arrive avec plein de blessures et des plaies et des fractures, les oreilles qui sont, les timbales qui sont déchirées et les traces du plastique sur les bras, sur les mains. Et après, l'incarcération, c'est pas très... Je crois que mes dessins peuvent exprimer mieux que mes paroles.
Vous préférez... C'était dans le centre 227 à Damas. Vous n'avez peut-être pas envie de décrire ce qui se passe. Vous le faites à travers vos dessins.
Tout simplement, je peux préciser que en 2012, nous étions entre 60 à 80 personnes dans une chambre qui fait 5 mètres sur 3, hauteur même pas 180 centimètres. La gale, la maladie, la torture, les gens s'entassaient les uns sur les autres. Je suis pu rester un mois, mais en 2014, le centre, il était déjà trop chargé pendant plusieurs années. Et j'étais réquisitionné comme d'autres prisonniers à transporter les cadavres des prisonniers qui mouraient sous la torture ou à cause des maladies et les conditions sanitaires très, très dures et très mauvaises. Donc, je me rappelle que la première cadavre que j'ai transportée avec un drap à l'aide d'autres prisonniers, elle portait le chiffre sur le front, il y avait un scotch, 5535. Et ça, ce chiffre, je ne l'oublierai jamais. Je suis resté 70 jours. La dernière fois où j'étais réquisitionné, le cadavre portait le chiffre de 5874. Ça veut dire qu'il y a eu au moins 300 personnes qui sont mortes pendant 70 jours. Vous imaginez alors les conditions et les techniques de torture qui passaient par la chaise allemande jusqu'à l'électricité, jusqu'au tapis volant. C'est des techniques de torture très imprévisionnées ou emportées par des soldats. On dirait qu'il y a des soldats qui sont arrivés au Moyen-Orient après la Deuxième Guerre mondiale. On peut noter Alois Bremer qui était embauché par les régimes en Syrie pour former les services des renseignements. Donc ils ont adopter des techniques qu'on dirait nazies comme la chaise allemande.
Et vous dites que le régime Assad imposait un choix binaire aux Syriens, pas de choix en réalité, devenir criminel et corrompu dans le camp du régime, ou alors devenir victime et mourir.
Exactement, ça c'est une phrase que j'ai emportée de Henry Miller, c'est un écrivain américain qui dit soit on est victime ou soit criminel. Le régime, il faut être criminel et me défendre en tant que Bachar Assad, soit être victime. Alors les gens qui ne peuvent pas ni choisir l'un ni l'autre, ils ont un troisième chemin, c'est d'être clown. C'est déjouer et faire un acteur et se moquer tout le temps et raconter des blagues. Même pour s'exprimer, il faut détourner les images. Et c'est là où la création commence. Mais malheureusement, en Syrie, ce théâtre est d'être clown pendant 54 ans. Le pays est devenu une sorte de cirque. Quand les bourreaux exerçaient la torture, ils jouaient comme des clowns. Ils essayaient de faire une sorte de théâtre. Ça les amuse de torturer. Et ils plaisantaient, ils imitaient des pièces de théâtre ou des feuilletons à la télé. Pour eux, c'était rigolo. Ça les a fait rire de torturer. Et là, maintenant, dans mes dessins, j'essaie de montrer ce parti de... Même les victimes, ils jouent avec les bourreaux en même temps. Donc, tu as le bourreau qui demande à des prisonniers d'assister à la torture d'un autre prisonnier. Pour le mettre, par exemple, dans la chaise allemande ou plier la chaise. Et à la fin, le supplié, il crie, et les autres prisonniers, ils rigolent, et le bourreau, il boit son maté ou son verre de thé. Et ce qui est dégueulasse, en fait, de vivre avec un régime tyran comme celle d'Assad, que la population, il banalise la mort et la torture. Et malheureusement, pendant les 14 ans de guerre, et le fait de voir beaucoup de vidéos où les agents du régime commettraient des massacres et ils se filmaient et ils faisaient des blagues. On peut voir par exemple l'exemple de le massacre du Tadamoun, c'est un quartier à Damas où on a vu la vidéo, un vidéo horrible. Et malheureusement, après la chute du régime, quand il y a des affrontements, on voit que même les gens qui ont subi cette torture, ils se filmaient maintenant, les révolutionnaires ou les gens qui sont fait chuter le régime de Assad, ils commettent les mêmes bêtises, les mêmes crimes. On voit ça, par exemple, avec ce qui s'est passé dernièrement.
Les affrontements ces derniers mois.
Sur la côte de la Syrie, quand il y a eu un essai de putsch ou tentative de renversement d'État par les pro-régimes, il y a eu un riposte très violent et il y a eu des massacres. Et on voyait les mêmes crimes et les mêmes comportements. Et c'est tout ça, moi, je dis, c'est à cause d'un régime dictateur de la famille Assad.
Quand Najah Al-Boukaï, vous avez choisi, pour la première fois, décidé de quitter la Syrie, à quel moment?
C'était en 2014. J'étais encore recherché après deux incarcérations, mais j'ai fait tout pour passer à la frontière, de payer des pots de vin pour des douanes, pour des gens, des agents du régime, et j'étais incarcéré. Ça m'a coûté 9 mois et quelques, ou 11 mois.
Quand vous dites la frontière libanaise, bien sûr.
Oui, voilà. Ouais. Et la deuxième fois, c'était en 2015, et j'ai bien réussi de traverser.
Là, vous avez réussi, et vous êtes arrivé en France?
De décembre 2015, avec ma petite famille, ma femme et ma fille. Et nous sommes là avec des racines. On ne sait pas comment. Est-ce qu'il faut qu'on retourne, on reste? Mais apparemment, nos racines commencent à être fortes ici. Justement, mais on attend les bons moments pour visiter et voir la Syrie à nouveau.
Et votre arrivée en France, comment ça s'est passé? Vous avez ressenti quoi quand vous êtes arrivé dans ce pays, la France?
Moi, je connais la France depuis 1993, la première fois. C'était le choc culturel pour moi, surtout de voir la quantité des magazines dans les kiosques, la liberté d'expression, les critiques contre les hommes de politique. Donc, c'était un choc culturel pour moi, de cette manière de critiquer surtout les hommes de la politique, moi qui viens d'un pays où le président, c'est un dieu. Avec ses enfants, c'est des dieux. Ben après, en 2015, heureusement, j'étais accueilli par mon frère. Et après 4 ans de guerre et plusieurs mois d'incarcération, c'était la respiration. J'avais besoin vraiment de me guérir.
Et vous continuez, bien entendu, à dessiner aujourd'hui.
Oui. Mais
avec un état d'esprit différent.
Pas totalement, non. Hein. Parce que j'arrive pas à me découper de ce qui se passe, d'être vraiment en coupure avec ce qui se passe au Moyen-Orient. On arrive de voir les infos qui se passent en Syrie, ou au Liban, ou en Palestine, à Gaza. Et tout ça, c'est pas trop gai. Donc, même si je dessine autre chose que les prisons, mais le sujet reste... parlant d'une actualité assez dure. Hein.
Comment vous avez vécu la chute du régime Assad en décembre dernier?
C'était un mélange d'émotions, étonnement, joie, peur, tristesse. Ben, personnellement, je n'ai pas réussi d'avoir un joie phénoménale, surtout que Israël a commencé à bombarder dès le matin. où on a annoncé la chute du régime, Israël a fait à peu près 500 raids aériennes contre la Syrie pour humilier la population syrienne, détruire l'armée syrienne, ne plus avoir l'espoir d'avoir un État syrien. On n'arrive même pas à faire un État. On est accusé d'être des terroristes tout le temps, des sanctions économiques. Donc ça, tout ça, c'est un mélange de sentiments. À la fois, tu vois les statues qui tombent, ça fait du bien de voir que le Assad, il est parti. C'est un traître qui a entraîné le pays dans une guerre civile où c'est les gens qui le soutenaient. Ils ont perdu beaucoup des hommes pour le défendre. Et là, il est parti avec tout son argent qu'il a dévalisé. Bref, oui, tous les Syriens, ils sont fatigués avec toutes ces émotions différentes à chaque journée, comme c'est un séisme qui arrive d'un différent état.
Avec de l'espoir, bien entendu, et une forme de réserve.
Bien entendu, on a toujours l'espoir. On a toujours l'espoir. Les gens, ils ne peuvent pas vivre en guerre tout le temps. Les Syriens, nous, on cherche la paix, on a besoin de se calmer. Même Israël et les États-Unis, ils sont très forts, ils ont beaucoup d'armes. Un jour, ils vont se calmer. Netanyahou, un jour, il va se calmer. Les Israéliens, il faut qu'ils comprennent d'arrêter leurs dirigeants, leur soif de humilier tous les gens, tous les pays autour d'eux.
Et ce nouveau régime, il vous donne justement de l'espoir, le nouveau régime syrien.
Imaginez que si on dit maintenant, moi j'ai l'espoir avec le nouveau gouvernement, je serais accusé d'être à côté d'un régime, parce qu'ils disent que ouais, c'est les Américains et les Israéliens, ils disent que c'est des terroristes. Mais nous, on a l'espoir à eux. Il y a beaucoup de difficultés, certainement. Il y a plein de problèmes en Syrie maintenant. Les sanctions, les gens qui ne trouvent pas des solutions. Mais personnellement, j'ai de l'espoir. Même ça va prendre du temps, mais il faut attendre. Il faut résister, il faut pas se démoraliser. Peut-être qu'il y a un grand prix à payer. Mais voilà, ça fait partie du monde.
Comment vous vous sentez aujourd'hui?
Ça va, pas trop fatigué. J'arrive à faire du dessin, jouer de la musique. Et parler.
Merci beaucoup. On vous aura bien entendu et bien écouté. Merci beaucoup, Naja Al-Boukaï. Vous êtes graveur, dessinateur syrien. Vous avez publié vos dessins de prison dans Tous Témoins, édité par Actes Sud. Et vous racontez, on l'a dit, on l'a entendu, l'horreur de ce que vous avez vécu à travers votre art. Vous exposez en ce moment vos œuvres à la galerie Europia, jusqu'au mois de mai prochain, la galerie Europia, c'est avenue de Ségur, dans le 7e arrondissement de Paris. Merci beaucoup, monsieur.
Merci à vous.
Merci à vous, chers auditeurs, et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
L'invité du jour.